Bonjour et bienvenue dans Les Filles Debout, le podcast de l'ONG Plan International France dédié à la Journée internationale des droits des filles. Pour cette journée essentielle, nous souhaitons donner la parole à des femmes qui se lèvent tous les jours contre les inégalités de genre et les violences sexistes. Dans ce deuxième épisode, vous allez entendre Louise Delavier, directrice des programmes au sein de l'association féministe En Avant Toutes. Elle lutte quotidiennement contre les inégalités et les violences basées sur le genre. Bonne écoute!
Alors, pour ce nouvel épisode de nos podcasts dédiés à la Journée internationale des droits des filles 2022, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Louise Delavier de l'association En Avant Toutes. Donc, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être parmi nous. Est-ce que je peux te laisser d'abord te présenter en quelques mots?
Oui, bonjour Fatima. Donc, je suis la directrice des programmes de l'association. C'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est nos actions d'accompagnement ainsi que de nos actions de prévention sur la garantie de l'expertise et ses orientations stratégiques.
Merci beaucoup. Alors, cet épisode est dédié à la question du cyberharcèlement sexiste. Quelle est la définition qu'on peut donner à ce phénomène ?
Alors, pour en donner une définition, il faut déjà peut-être un petit peu séparer les mots. Le harcèlement, qu'est-ce que c'est ? C'est une série, on peut dire, de communications, c'est-à-dire de mots ou bien d'images ou bien d'insultes qui vont être répétées et qui vont viser à faire du mal à quelqu'un. Par exemple, quand tous les jours, il y a quelqu'un de notre collège ou de notre lycée qui nous envoie qu'on est moche. Ça, c'est du harcèlement. Cyber, c'est quand c'est en ligne. Donc, ce qui est difficile quand c'est en ligne, c'est qu'on peut pas vraiment l'arrêter. Si quelqu'un nous harcèle au collège, mais qui s'arrête une fois qu'on a fini la journée, on peut passer à autre chose le soir. Quand c'est cyber, c'est compliqué, parce que quand on allume son Snapchat le soir, ça peut continuer. Et sexiste, c'est quand c'est parce que on est une fille, ou qu'on est une minorité de genre. À ce moment-là, on va aussi vivre du harcèlement pour cette raison. Donc c'est par exemple, toutes les filles, elles sont trop nulles, ou alors, je vais citer, mais par exemple, désolée, mais t'es qu'une grosse pute. Des choses comme ça, quand on reçoit ces mots de manière répétée par des canaux numériques, alors c'est du cyberharcèlement sexiste.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Tu représentes donc En Avant Toutes. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu comment est née cette association ?
Oui, tout à fait. Donc nous, quand on a créé En Avant Toutes, l'objectif, c'était vraiment de faire quelque chose qui soit utile. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les associations qui existaient sur le territoire francilien. Et on leur a demandé, en gros, coucou, c'est quoi vos besoins en ce qui concerne les droits des femmes aujourd'hui? Et tout le monde nous a dit la même chose. Tout le monde nous a dit les jeunes. Nous, les jeunes, on comprend pas. On sait qu'elles vivent des violences. On sait qu'elles sont surreprésentées parmi les victimes de violences, mais elles ne viennent pas dans nos associations. Elles n'appellent pas nos numéros d'écoute. Donc, ok, on a pris ce constat et on a remarqué que, effectivement, quand on est jeune, c'est difficile d'aller vers des endroits qu'on ne connaît pas, vers des endroits en quels, parfois, on n'a même pas confiance ou alors dont on n'a pas connaissance. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir là où on savait qu'étaient les jeunes. Et les jeunes, en fait, elles sont en ligne. Les jeunes, elles parlent beaucoup de ce qui leur arrive, mais elles en parlent dans des espaces qui vont être plus informels, par exemple sur les réseaux sociaux ou sur des forums dédiés. À l'époque, c'était en 2013, donc on avait surtout Facebook, on avait Doctissimo, il y avait des choses comme ça, mais des espaces qui ne sont pas du tout pensés pour pouvoir prendre en charge les victimes de violences. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé justement cet espace en ligne, un site qui s'appelle aujourd'hui commentonsaime.fr, et qui en fait reprend toutes ces thématiques que détaillaient des jeunes, mais au même endroit. Donc nous, on a vu que sur les forums ou sur les réseaux sociaux, elles disaient des choses du genre « mon copain me force » ou genre « il est trop jaloux » ou genre « je comprends pas pourquoi il réagit comme ça devant ma famille et pas devant moi ». Enfin voilà, il y avait tout un tas en fait de comportements qui étaient décrits très précisément par le témoignage, mais qui en fait décrivaient véritablement des violences conjugales, sauf que le mot n'était jamais, jamais prononcé. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que sur le site, on a repris tout ça. On les aide à déconstruire un petit peu ce que c'est, à comprendre, à donner des explications. Et ensuite, une fois que l'explication, elle est bien claire d'une manière assez aussi ludique et un petit peu rigolote, dessus, sur ce site, on a mis un chat. Ça nous permet de faire le même travail que les numéros d'écoute de type 3919, gérés par la Fédération Nationale Solidarité Femmes, dont nous faisons d'ailleurs partie. On a décidé de faire un petit peu la même chose, mais sur un recours à l'écrit. Parce qu'on sait aujourd'hui que rien ne fait plus peur à un jeune qu'un téléphone qui sonne. que c'est très difficile parfois de parler à voix haute avec son téléphone, c'est pas du tout dans les usages. Par contre, parler par écrit, c'est quelque chose qui est extrêmement naturel, que font tous les jeunes pour se confier à leurs copains, à leurs copines. Et du coup, nous, c'est ça qu'on a mis en place, on a mis ce chat. Et c'était une grande première en France. Aujourd'hui, ça marche très bien parce qu'on accompagne plus de 5000 personnes par an dessus. Donc ça fonctionne bien. Et à côté de ça, nous, on va voir les jeunes dans les collèges, dans les lycées, pour faire de la prévention. Et pour justement faire en sorte que ces violences qu'on détecte chez les 16, 17, 18 ans, en fait, elles ne se produisent pas. On espère que si jamais on fait de la sensibilisation assez tôt, normalement, ça devrait fonctionner. Et on a aussi une très forte présence en ligne, puisqu'on a des réseaux sociaux qui marchent bien. On a un Instagram, on a un TikTok, on a bien sûr aussi un Facebook et un Twitter, mais qui nous permettent en fait d'aller chercher les jeunes un peu là où elles n'iraient pas forcément chercher des infos sur les violences sur Instagram, mais pour autant d'aller les capter quand même pour les aider à aller vers le chat, là où on va les écouter, les conseiller, les rediriger vers des structures qui peuvent véritablement les aider.
Super. Et j'imagine donc que c'est pas des robots qui répondent à ces chats, ce sont bien des personnes
absolument
humaines. Est-ce que tu peux citer certains enseignements que votre association a tirés de vos échanges avec les jeunes dans la prévention de chat sur la question particulière du cyberharcèlement sexiste?
Oui, c'est que une chose qu'on pourrait retenir, c'est qu'aujourd'hui, c'est une question qui est assez maltraitée par les adultes. Aujourd'hui, il y a une espèce de mécompréhension de ce que c'est véritablement le cyberharcèlement sexiste. Et en fait, il y a beaucoup d'adultes qui pensent que c'est la faute aux réseaux sociaux s'il y a du harcèlement. Aujourd'hui, on a l'impression, quand on écoute certains adultes, que le pire des mots sur la Terre, c'est TikTok. Alors qu'en fait, le problème du cyberharcèlement sexiste, c'est le sexisme. C'est le fait qu'aujourd'hui, on est dans une société qui ne respecte toujours pas les femmes, a fortiori les filles. Et j'ai remarqué également que, en plus de cette méconnaissance de comment fonctionnent les réseaux sociaux, en plus de cette espèce de méfiance qui existe de la part des adultes, il y a aussi beaucoup de jugements sur ce que les filles peuvent faire en ligne, et notamment quand, par exemple, voilà, il va y avoir des pratiques comme montrer ses tenues, montrer son maquillage, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de jugements, et du coup, il y a des adultes parfois qui, sans doute à leur corps défendant, finissent par blâmer les filles pour ce qui se passe, et donc ça crée derrière des jeunes femmes ou des jeunes filles qui n'ont pas du tout envie de se confier aux adultes parce qu'elles ont l'impression que leur simple présence en ligne est un problème. Alors que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est le sexisme et c'est le fait qu'on insulte ces filles.
Et puis tu l'as expliqué tout à l'heure, quand on pense cybersexisme, on se dit que c'est peut-être des personnes qu'on connaît pas, des inconnus ou des camarades, alors que parfois c'est un petit copain qui va t'envoyer beaucoup de MP malveillants, quoi que ce soit. Comme pour les violences conjugales qui existent aussi même chez les jeunes couples. Plus globalement, comment se manifeste le sexisme en ligne? On a parlé des MP, des DM, c'est-à-dire du fait d'aller cibler la personne. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations du sexisme qui font que les filles se retirent finalement de leur expression citoyenne via les outils que donnent les réseaux sociaux?
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on a dit que le harcèlement, c'est quand c'était répété. Ça peut être répété par une personne, par exemple un copain qui tous les jours vous envoie un message méchant, mais ça peut être aussi parfois répété par beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, même si chaque personne le fait qu'une fois. Et on a remarqué que quand des jeunes femmes s'expriment en ligne, que ça soit par exemple parce qu'elles ont envie de parler de leur centre d'intérêt ou des choses comme ça, mais aussi et surtout quand elles vont parler d'égalité ou de féminisme, en fait souvent il y a une réaction extrêmement forte qui est faite de la part des opposants de ces jeunes filles, qui sont parfois des gens très très jeunes, qui sont aussi parfois des filles, et qui vont parfois appeler au harcèlement en masse contre cette personne. C'est ce qu'on va appeler des raids numériques. Le mot fait très peur, mais parce que le phénomène fait très peur aussi, et qui va en fait faire que chaque abonné va envoyer un message malveillant à la personne. Mais parfois, les gens qui appellent à ça, c'est des gens qui ont des centaines, des milliers, voire des millions d'abonnés. Et du coup, ça crée des situations extrêmement difficiles pour les personnes qui essayent de s'exprimer sur le sujet. Et vraiment, c'est une stratégie de faire en sorte de les silencier, quoi, qu'elles ne s'expriment plus jamais. Donc voilà, il y a aussi ça qu'on pourrait identifier comme manière principale de cyberharceler. On sait que sur Internet, on est beaucoup et on peut agir fort. Donc c'est un outil qui est fortement utilisé, notamment dans les milieux masculinistes et hostiles au féminisme.
Oui, et rappelons d'ailleurs que sur le raid de cyberharcèlement, une loi est passée qui les condamne spécifiquement. Est-ce qu'on a des comparatifs par rapport au cybersexisme en France et d'autres pays? Est-ce qu'il y a des pays qui arrivent à mieux le combattre ou à moins bien le combattre? on va dire, essayons plutôt de citer des exemples qui vont nous tirer vers le haut.
Bah, c'est assez difficile à dire et à évaluer, à faire des comparaisons entre pays, parce que aujourd'hui, Internet est encore assez mal légiféré. Ça commence à venir. Tu citais tout à l'heure la loi qui justement réprime le cyberharcèlement, mais c'est encore difficile à dire. C'est dur de trouver des bonnes pratiques, notamment parce que c'est des phénomènes qui génèrent encore beaucoup de honte de la part des personnes qui le vivent, qui fait parfois que ben malheureusement ça fonctionne et du coup les personnes arrêtent de parler. Donc moi je trouve que c'est très compliqué à évaluer et à trouver, en tout cas à ma connaissance, un pays qui tirerait son épingle du jeu et qui serait en passe d'endiguer ce phénomène vraiment pas encore. Pour autant, on voit que ça soit en France, dans d'autres pays européens, etc., il y a quand même une conscience qui s'éveille très fortement sur le sujet et qui fait qu'aujourd'hui, à défaut d'avoir résolu le problème, au moins on parle de ces questions et ce podcast en est l'exemple.
Tout à fait, on essaye. Est-ce que il faudrait une éducation des jeunes, et particulièrement des filles et des minorités de genre, à l'usage et au danger des réseaux sociaux, sans que ce soit culpabilisant, bien sûr. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion pour vraiment adapter une espèce de connaissance citoyenne de nos droits en tant qu'internautes, puisqu'on sera, je pense, de plus en plus des internautes dans les années à venir ?
Oui, tout à fait. Nous, c'est une question qu'on discute beaucoup pendant nos sessions de prévention. Nous, on aide les jeunes à ne pas être sexistes. Déjà, premièrement, c'est une première forme de prévention. Si personne ne s'insultait dans la vie réelle, on ne s'insulterait pas non plus en ligne. Donc, c'est déjà une première chose. Mais fort est de constater que, quand même si on s'insulte pas en vrai, il y a des choses qui sont quand même à connaître sur les réseaux sociaux. Par exemple, les phénomènes de viralité. C'est pas la même chose de montrer une photo de soi toute nue à son petit copain ou de la lui donner que de l'envoyer. Par exemple, par SMS, parce que une photo en cliquant sur partager ou en activant son airdrop, en fait, c'est partagé à tout le monde extrêmement vite, extrêmement massivement. Donc, il y a un effet de viralité où c'est quand même important de pouvoir sensibiliser. Il y a aussi le fait que, ben, mine de rien, on a des droits. Et en fait, nous, sur le chat, par exemple, on reçoit beaucoup de jeunes femmes qui viennent nous voir en nous décrivant des faits, par exemple, de revenge porn. Le revenge porn, c'est quand on a un petit copain qui va nous punir, par exemple, de l'avoir quitté ou de lui avoir dit non en diffusant des photos ou des propos intimes. Et ben, nous, on a des jeunes femmes qui viennent nous voir sur le chat pour nous raconter ça et qui, en fait, sont absolument pas au courant qu'elles ne sont pas coupables d'avoir fait quoi que ce soit. Et elles pensent que c'est entièrement leur faute, notamment parce qu'elles entendent ce discours culpabilisant dans la société qui est qu'il faut, je mets des gros guillemets avec mes doigts pour les auditeurs, mais qu'il faudrait se respecter. Alors qu'en réalité, se respecter, ça serait plutôt mutuel et ne pas envoyer la photo d'une fille qui nous a fait confiance, voilà. Donc il y a tous ces cas-là, et ça nous permet de le savoir, finalement, de pouvoir éduquer un petit peu à ces principes. Mais je continue de penser que même si on peut avoir une éducation aux réseaux sociaux, ce qu'on se dit dans la vie reste ce qui prime. Et donc, pouvoir agir contre le sexisme, c'est aussi endiguer quand même ce phénomène d'une manière formidablement efficace.
Alors, pour toutes les filles qui nous écoutent, pour qu'elles soient plus safe en ligne, est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce que quand on est victime de cybersexisme, vers où on peut se tourner ? Pour toutes les personnes concernées, quels sont les leviers qu'elles ont pour se protéger ?
Bah, la première chose que je dirais, c'est que déjà, on n'est jamais coupable de vivre du sexisme. Et que du coup, on a le droit d'avoir de l'aide. Et j'insiste, parce que les trois quarts des personnes qui viennent me voir pour me parler de ça pensent qu'elles n'ont pas le droit et qu'elles abusent en demandant de l'aide, alors que ça n'est pas le cas du tout. Déjà, ce qui peut être une première piste, c'est d'en parler à quelqu'un en qui on a confiance. Donc ça peut être un ami, une amie. Déjà pour commencer, ça peut être ses parents, ça peut être un autre adulte de son entourage. C'est très important de le faire parce que le cybersexisme, ça isole. Et la première chose à faire quand on est isolé, c'est de se désisoler et donc d'aller chercher du soutien. Si jamais on en parle à quelqu'un qui réagit mal, on peut aller voir quelqu'un d'autre. C'est important aussi, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sensibilisés et qui pourraient réagir en culpabilisant. Si vous êtes culpabilisé, allez voir une autre personne. Nous, par exemple, sur notre chat commentsem.fr, on est tout à fait habilité à écouter ce type de récit. Nous, on a des personnes qui viennent nous voir pour nous raconter ça. On a des pistes en fonction de ce dont les gens ont envie ou besoin qui vont être adaptées à la situation. Donc, pour aller sur le chat, il suffit de se connecter sur commentsem.fr. Il y a un petit onglet avec marqué « Je discute avec une professionnelle ». Et là, c'est notre équipe qui répond. C'est ouvert de 10h à 21h tous les jours, du lundi au samedi. Et donc, on peut venir se confier, mais aussi raconter que ça nous fait très, très mal, que ça nous fait très, très peur et qu'on a très, très honte. Nous, on est tout à fait capables d'entendre ça, de rassurer. Et on est très gentils et professionnels sur ce point de vue-là. Ensuite, bien sûr, il y a tous les recours légaux. Aujourd'hui, on a le droit de venir avec une plainte pour ce qui s'est passé en ligne. La police doit nous écouter, doit nous recevoir. Et comme c'est difficile aussi d'aller faire ce pas-là, c'est important, on peut se faire accompagner par une association. Il y a des associations qui peuvent venir au commissariat. Nous, on les connaît toutes. Hein. Là, je ne vais pas en faire la liste, mais on peut les recommander sur le chat, par exemple. Donc, ce qui est important pour les jeunes filles qui peuvent vivre ça, c'est qu'il y a plein de solutions. Il y a plein de choses à faire. Il suffit juste de trouver les bons et les bonnes interlocutrices pour pouvoir en discuter. Mais il y a toujours moyen de faire quelque chose.
Merci beaucoup. Alors, Plan International France, il y a France et il y a International. Donc, Plan International a mis en place au Népal des groupes de parole non mixtes en ligne pour que les filles puissent échanger et s'éduquer sur des sujets très tabous dans leur culture, par exemple, le fait d'évoquer les règles. Est-ce que ce genre de réseau existe? Est-ce que ça pourrait fonctionner en France, selon toi? Et quels seraient, à ton avis, les sujets un peu clés à y aborder? Est-ce qu'il y a des tabous à la française, au final, sur tout ce qui concerne les filles? Et là où on va parler positivement, des espaces numériques positifs pourraient être mis en place?
Oui, c'est une très bonne initiative. La non-mixité, c'est un formidable outil. Nous, on s'en sert beaucoup aussi pendant nos interventions scolaires. On fait toujours des moments en non-mixité parce que ça permet véritablement d'échanger des vécus et des vécus dont on ne parlerait pas devant tout le monde. Là, je vois qu'il y a l'exemple des règles. En France, chez beaucoup de jeunes, ça commence à changer, mais les règles, c'est aussi un tabou. C'est quelque chose dont on ne parle pas dans toutes les familles, dont on ne parle pas forcément non plus beaucoup à l'école. Donc c'est des sujets qui sont importants à discuter entre filles et entre minorités de genre. Et nous, on voit que c'est des sujets qui émergent beaucoup plus facilement. Moi, je crois qu'en France, on a du mal à parler de nos sentiments. J'ai l'impression que les émotions, c'est quelque chose qui est compliqué. Ou quand on exprime une difficulté, on est vite vu comme faible, par exemple. Alors que ça serait vraiment si joli d'avoir des réseaux de solidarité où on peut dire « Là, on m'a dit non et je me suis sentie comme une merde. » Ou alors « Là, ça m'a fait mal. » Ou alors, là, je me suis sentie rejetée. Je sais pas si vous connaissez beaucoup d'espaces où on parle de ça, mais en vrai, moi, j'en connais très peu. À part des groupes de copines bien rodées où on a l'habitude, c'est un espace sur lequel on est très peu éduqué. Donc, ça serait joli de pouvoir le faire. Et de pouvoir le faire aussi, je pense, d'une manière qui soit cadrée. Parce qu'en vrai, quand on exprime ses sentiments, quand on exprime des choses intimes, il arrive souvent que, on se mette un petit peu en vulnérabilité. Et donc, c'est bien d'avoir quelques règles de groupe pour se sentir bien de parler. Par exemple, ne pas se juger, ne pas se moquer. Ou le fait de simplement dire qu'on a le droit de pas être d'accord et que ça veut pas dire qu'on n'est plus copine. Donc, si de tels groupes existent, je pense que c'est bien qu'ils soient peut-être animés ou alors avec une formation suffisante en amont pour que ça puisse s'auto-réguler. Je pense que ça serait intéressant. Et on pourrait le faire IRL, c'est-à-dire en présentiel, on dit maintenant, mais aussi en ligne. Je crois vraiment beaucoup à la force d'Internet pour pouvoir créer des espaces qui sont aussi sécurisés parce que l'Internet offre un relatif anonymat, en tout cas une confidentialité un peu supplémentaire parce qu'on nous voit pas forcément, on voit pas forcément notre tête, sauf si on parle en ligne, en vidéo, mais on peut retirer la vidéo si ça nous pose problème. Voilà, moi, je crois que ça permet vraiment de libérer plein de choses. Donc, à mon avis, ça serait une très jolie idée.
Mmh, tu as tout à fait raison sur ce que tu disais. J'ai remarqué depuis MeToo que le mot « victime » était un peu amoché. C'est-à-dire que les personnes se disent « Attends, les femmes ne sont quand même pas, les filles ne sont quand même pas des victimes. » Et rappelons que victime, ce n'est pas une personnalité, c'est un statut. Et c'est un statut qui ouvre des droits. Et c'est un statut qui est momentané, on va dire.
Tout à fait. C'est un statut qui est momentané et c'est un statut aussi qui permet d'inverser la culpabilité. Je pense que si les associations féministes et d'autres associations en utilisent le mot victime, c'est aussi pour rappeler que c'est pas la faute des personnes qui subissent.
Tout à fait. Alors, est-ce que vous intégrez aussi les garçons dans vos pratiques de sensibilisation pour ce qui est du cyberharcèlement ?
Bien sûr, et c'est indispensable. Déjà, il y a des garçons qui se font aussi cyberharceler. Souvent, ce sont les garçons qui ne correspondent pas aux normes de virilité. Donc, c'est important d'avoir de s'adresser aussi à eux quand on parle de sexisme. Les garçons vivent du sexisme à travers l'homophobie, par exemple. Donc c'est important de, ça aiderait tout le monde si on pouvait enfin clore ce sujet et ne plus perpétuer le sexisme. Donc bien sûr, nous on pense que c'est extrêmement important de responsabiliser aussi les garçons sur ce qui se passe, sur le fait que il y a beaucoup de choses qu'ils font aussi sur Internet par effet de groupe. Aussi parce que c'est très difficile aujourd'hui d'exister quand on est un garçon et qu'on ne veut pas suivre la violence. Donc c'est difficile. En vrai, nous on voit plein de jeunes garçons qui ont extrêmement envie de faire autrement, mais qui pour exister en tant qu'hommes sont obligés de suivre certaines de ces injonctions. C'est quelque chose que je trouve profondément injuste, et je crois qu'on leur doit aussi ce respect aux jeunes garçons, de les écouter et de les aider à exprimer, pourquoi pas, cette vulnérabilité qu'ils peuvent avoir, de pas la juger, de ne pas en avoir peur aussi en tant qu'adulte. Parce que ce que je remarque, c'est pour travailler beaucoup avec des jeunes, c'est que toutes ces choses qui leur sont transmises, elles leur sont transmises par des adultes. Alors que les adultes, quand on va les voir, ils nous disent que c'est les jeunes qui font n'importe quoi et que c'est à cause de Snapchat et que c'est à cause de Booba qu'aujourd'hui la société va mal. Alors qu'en fait, ce sont aussi les adultes qui transmettent le fait qu'un garçon ne doit pas pleurer. Qu'un garçon ne peut pas mettre du vernis à ongles ou faire plein de choses qu'il aurait envie de faire. En fait, les adultes transmettent ces injonctions. Donc c'est très important de les avoir à l'esprit. Et c'est pour ça que nous, on travaille vraiment très, de manière très engagée aussi avec eux pour les mener vers un chemin où ils seront peut-être plus heureux en dehors des normes de violence. Ça semble évident dit comme ça, mais dans les faits, ça l'est beaucoup moins. Donc voilà, on les aide à repérer ça, mais aussi à repérer ce qui se passe quand on transmet quelque chose, parce que ce qu'on constate avec les jeunes, c'est que souvent le cyberharcèlement, ça se fait presque sans le vouloir, dans le sens où il y a un petit peu des injonctions à partager, par exemple un contenu qui va être méchant ou critique vis-à-vis d'une personne, et du coup beaucoup vont le faire un petit peu par automatisme alors qu'ils sont pas forcément en adhésion, mais ça pour la victime, ça crée du harcèlement extrêmement fort. Donc voilà, nous on les aide à repérer ça. Et aussi, on les aide à montrer qu'ils et elles peuvent décider. Parce que les jeunes, en fait, ils ont aucun espace de décision aujourd'hui dans la société. On leur dit toujours ce qu'ils doivent faire. On leur dit comment ils doivent s'asseoir en classe, comment ils doivent parler, comment ils doivent se comporter, ce qu'ils doivent faire comme loisir. On juge tout ce qu'ils font. Nous, on les aide aussi à voir qu'on peut un petit peu sortir de ça. Et notamment en décidant, de pourquoi pas être sympa sur Internet, par exemple.
Louise Delavier, je te remercie mille fois d'être venue. Tu nous as vraiment beaucoup éclairé sur cette question. C'est donc un podcast qui est dédié à la Journée internationale des droits des filles. Est-ce que tu aurais un mot, une phrase pour les filles du monde entier qui nous écoutent sur l'importance aussi de cette journée qui est assez invisible en France, alors que justement, en complémentarité avec le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, ou du 25 novembre, Journée internationale contre les violences faites aux femmes, elle pourrait mettre la lumière sur des enjeux qui concernent spécifiquement les filles.
Oui, on pourrait dire à toutes les jeunes filles qu'on les croit, qu'on les soutient et qu'elles ont des droits. C'est un petit peu ça le sens de cette journée. Et en France en particulier, parce qu'en France, on a tendance à penser que l'égalité est acquise. Mais en fait, il reste plein de choses à faire. Et c'est à nous, c'est à vous, c'est à tout le monde d'agir. Et franchement, on est motivés, j'ai l'impression.
Carrément. Merci beaucoup, Louise.
Merci, Fatima.
C'était le deuxième épisode du podcast « Les filles debout » de l'ONG Plan International France. Merci d'avoir pris le temps de le découvrir. On se retrouve la semaine prochaine pour discuter de l'importance de la sensibilisation aux violences sexistes dès l'école avec le planning familial. En attendant, retrouvez tous nos autres épisodes sur les chaînes de Plan International France, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite !